Je vais vous faire l'expérience que je fais chaque dimanche, de rester debout pendant toute la prédication. Vous êtes d'accord? Non, non. Mais je pense que c'est bien. Vous savez, il y a tant et tant d'endroits où on ne respecte plus la parole que j'ai pensé que c'était une bonne chose de lire quelques textes en étant debout devant le Seigneur. Nous allons faire 7 lectures. La première dans le prophète Joël. Joël, c'est un des petits prophètes après les grands prophètes. Vous savez, Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Je le dis parce que certains ont du mal à trouver après les grands prophètes. Osée, Joël. Joël, chapitre 2, verset 30. Je vous encourage à noter ces textes pour que vous puissiez chez vous les relire afin de comprendre ce que je n'aurais pas dit, ce que je n'ai pas pu dire, qui vous permettra d'avoir une profondeur dans votre culte personnel. Joël, chapitre 2, verset 30. Nous allons voir comment le prophète Joël appelle ce jour où Jésus va revenir. Joël, chapitre 2, verset 30. C'est surtout le verset 31 qui nous intéresse. Joël, chapitre 2, verset 30. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Voilà comment le prophète annonce ce jour. Ce jour grand et terrible. Lisons dans Actes, au chapitre 2, comment l'apôtre Pierre parle de ce jour. Actes, chapitre 2. C'est la même prophétie reprise par notre frère Pierre. Oui, c'était un frère. Actes, chapitre 2, verset 19. C'est la même prophétie. Il en parle, mais regardez le mot qui change. Actes, chapitre 2. On va lire à partir du verset 18. Oui, je vous laisse trouver. C'est important, c'est bien que vous veniez avec votre Bible, c'est très bien. Acte chapitre 2, verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Vous avez vu la différence? Dans le premier texte, un grand jour terrible, et dans le deuxième texte, la même prophétie, un grand jour glorieux, on verra tout à l'heure. Un peu avant, lisons ce que les anges ont pu dire. Actes chapitre 1, verset 10. Il n'y a pas que les prophètes et que les apôtres et que les serviteurs de Dieu, même les anges, parlent du retour de Jésus. Actes chapitre 1, verset 10. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Amen, mes frères et sœurs. Dans le livre de Matthieu, un petit peu en avant, je vous fais aller d'avant en arrière, c'est pas trop grave. Je voudrais vous rappeler cette prophétie. Matthieu 24, verset 36. J'en ai souvent parlé ces temps-ci et je ne me lasserai pas de le faire. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Je le lis, je le relis. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 9 et au verset 27, ça fait beaucoup de lectures, mais je pense que c'est bien. Parce que ça nous prouve que la Bible entière nous parle de ce jour glorieux ou terrible. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois pour les évangéliques de Sainte-Agne. Non ? Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous y reviendrons tout à l'heure, bien entendu. La dernière lecture, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 7. Apocalypse, chapitre 22, verset 7. C'est la fin, les dernières paroles de Jésus. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que les paroles de l'Esprit. Il y a les paroles de l'Église qui répond. Apocalypse 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Ça fait rire beaucoup de gens, ça. Moi, j'ai vu un jour un reportage assez dans l'air sur les... Vous savez, quand il y avait cette fameuse histoire où ça devait être la fin du monde en 2012, vous savez, avec le calendrier Maya, il y avait un spécialiste des prophéties bibliques qui s'est moqué de Jésus à cause de ses prophéties, justement. Je viens bientôt. Il se moquait de Jésus parce que Jésus a dit ça. S'il avait compris que pour Dieu, 1000 ans, ouais, sont comme un jour. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, regardez bien, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut de l'eau de la vie et prenne de l'eau de la vie gratuitement. Les deux derniers versets, verset 20 et verset 21, c'est Jésus qui parle. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Ça, c'est la réponse de l'Église. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Vous avez vu, vous pouvez vous asseoir, vous voyez dans ces derniers versets que nous voulons de lire dans l'Apocalypse, quelque chose de très important. C'est-à-dire que l'Église, l'épouse, ben il y a l'Église et il y a l'épouse. L'épouse, c'est l'Église qui est prête. L'Église, c'est l'ensemble de tous les gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas prêts. L'épouse, elle, elle est prête parce qu'elle correspond à ceux qui se sont préparés. Dans la fin de la Bible, vous voyez quelque chose de très très important. C'est que d'un côté, l'Esprit de Dieu parle et l'Église, elle est avec. Elle est d'accord. Vous avez vu, trois fois, Jésus dit « je viens » et trois fois, l'Église dit « viens ». Vous comprenez ce que je veux dire? Il doit y avoir une osmose entre les deux, une cohésion. On doit être d'accord. Et vous avez remarqué, souvent, il est dit que celui qui entend dise « viens ». Vous allez me dire, mais on entend. Vous êtes sûr que tous les chrétiens entendent ça? Si Dieu dit que celui qui entend, ça sous-entend que certains n'entendent pas, ou n'entendent plus, ou n'entendent qu'avec leurs oreilles physiques et n'entendent pas avec leurs oreilles spirituelles. Quand Jésus dit, mais que celui qui entend, ça veut dire également qu'il faut répondre. Qu'est-ce que je réponds? Est-ce que je peux dire, mais moi aussi je suis d'accord. Je suis d'accord avec le retour du Seigneur. Vous êtes d'accord avec le retour du Seigneur? L'esprit et l'épouse, l'Église qui répond. Mes frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu. Je ne le sais pas en vérité. Est-ce que vous savez moi où j'en suis? Est-ce que vous pouvez savoir exactement où moi j'en suis avec Dieu? Non. Mais un véritable chrétien, il veut savoir ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église. Il ne veut pas entendre une prédication pour entendre une prédication. Le véritable chrétien, il est là, il dit, mais qu'est-ce que Dieu a à dire à l'Église? Enfin, pasteur, je pense qu'il est intéressé par ça. Mais un chrétien, est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que Dieu a à vous dire? Eh oui. Mais c'est ça qui devrait être notre préoccupation. Quand on prie, que ta volonté soit faite. Mais c'est un peu ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et ce que tu as à me dire, je vais l'entendre. Et je vais en prendre note. Et je vais surtout l'appliquer. un chrétien, il se met d'accord avec le message de Dieu. Il n'est pas tout le temps en train de dire « oui, mais, oui, d'accord, je sais, mais moi, je ne peux pas ». Mes frères et sœurs, un chrétien, un véritable chrétien, il se met d'accord avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on voit à la fin « je viens » et l'Église, trois fois Jésus dit « je viens » et trois fois l'Église répond « viens ». Vous êtes d'accord avec le Seigneur ? Vous êtes d'accord avec sa parole ? Un chrétien, il se met d'accord, il a besoin. Moi, j'ai besoin d'être d'accord avec le Seigneur. Et pas juste avec quelques prédications. Un chrétien, il dit, viens. Vous le dites d'un Seigneur, viens. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que ça peut arriver de dire, Seigneur, reprends-moi. Est-ce que ça vous est arrivé de dire, Seigneur, reprends-moi ? Vous avez remarqué que nous disons ça lorsqu'on a des problèmes. Oui ou non ? Ça vous est jamais arrivé ? Quand on a des problèmes, ah, c'est dingue comme c'est facile de dire, Seigneur, reprends-moi. Et dès que ça va mieux, eh bien, on ne le demande pas. Oui ou non ? Ça vous est arrivé, ça ? Vous avez déjà fait ? Oui, on l'a tous fait. Alors, ça n'a rien à voir avec ça. La première pensée qu'il faut tirer de tout ce qu'on vient de lire, c'est que celui qui connaît Dieu, il est d'accord avec le Saint-Esprit. Il cherche la pensée de Dieu. Il sait que le Seigneur va revenir. Vous le croyez que Jésus va revenir ? Est-ce que vraiment vous le croyez qu'il va revenir chercher son Église ? Il va revenir, le Seigneur. Et ça veut dire quoi ? Viens. Eh bien, ça veut dire que je ne suis pas contre son retour. Je veux son retour. Je veux être avec lui. Je m'y prépare. Parce que c'est bien de vouloir que Jésus revienne. Mais c'est peut-être plus intelligent de s'y préparer. Et de dire, je me prépare. Un voyage, on le prépare. Il y a des gens, quand ils partent en voyage, à coller dans le battant de la valise, ils ont toute la liste de tout ce qu'il faut. Et ils se préparent, et plus le voyage approche, et plus ils regardent, est-ce que je n'ai pas oublié le fil dentaire ? Non, le fil dentaire. Le dentifrice. Oui ou non ? Il y a des gens, quand ils préparent un voyage, quand le dernier jour arrive, ils regardent s'il manque rien. Est-ce qu'ils ont raison ? Ben oui. Et tout le Nouveau Testament, quand vous lisez, parce que j'aurais dû prendre même davantage de textes, de prophètes, des anges, des serviteurs, des apôtres, etc., pour vous montrer une chose, c'est que toute la parole de Dieu converge vers cette vérité, Jésus va revenir. Alléluia. Jésus, il va revenir. On a lu la parole des anges qui interpelle les apôtres lorsqu'ils voient Jésus partir. Et il dit, mais attendez, ce Seigneur qui est enlevé au ciel, il reviendra de la même manière. Gloire à Dieu. Il va revenir. Et vous savez, dans les églises aujourd'hui, on évite ce sujet. On en parle de moins en moins, alors qu'il me semble qu'on devrait en parler de plus en plus. Parce que plus le moment s'approche, c'est comme pour la valise, et bien plus on la prépare, plus le moment approche, plus on se prépare. Le message de l'évangile, c'est quoi ? C'est que Jésus est mort pour nos péchés. C'est pour ça qu'on a pris le pain, c'est pour ça qu'on a chanté, c'est pour ça qu'on est là. Il est mort, le Seigneur Jésus, pour le pardon de nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification, et il revient pour que nous soyons avec lui dans la gloire. Vous avez envie d'être avec lui dans la gloire ? C'est ce que Dieu veut. Tous les textes, toute la parole n'a qu'un but, nous aider à nous préparer à rencontrer Dieu. Je voulais prendre ce texte dans Mort, chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et je ne suis pas sûr que tous les chrétiens soient prêts. Ce n'est pas parce qu'on est dans une église qu'on est prêt. Ça serait trop facile. On peut être là physiquement et se faire croire qu'on est prêt. Beaucoup de gens ne sont pas prêts. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Que les pécheurs ne soient pas prêts, c'est évident. Que les fils prodigues ne soient pas prêts, c'est encore plus évident. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Ils croient qu'ils sont prêts, comme les chrétiens de la Odyssée. Alors, nous sommes là ce matin pour nous préparer, pour nous aider à nous préparer. C'est un événement important. On remplit la valise, on prépare la valise, parce qu'on veut être prêt. Alors, est-ce que vous le cherchez, le Seigneur ? Parce que c'est une question qu'on peut poser, ça. Est-ce que vous cherchez Dieu ? L'autre jour, j'ai dû parler à des pasteurs, et je leur disais, mais vous préparez, vous cherchez Dieu, vous préparez des prédications. Ah, ils m'ont regardé tous, avec un drôle d'air. Et je leur ai dit, mais il y a une grande différence entre préparer une prédication et chercher Dieu. mais c'est valable pour tous les chrétiens. Il y a une grande différence entre servir Dieu dans un domaine ou dans un autre, et puis vraiment chercher le Seigneur. Et les prophéties, il faut les lire sérieusement. Toutes ces choses ont été écrites pour qu'on les lise sérieusement. Comment on la lit, la parole de Dieu ? Comme un simple livre, comme on l'a entendu ce matin. Il y a des gens qui lisent la Bible comme on lirait un roman de Jules Verne. Mais Jules Verne, même si vous lisez des bons contes, au bout de la 15e fois, vous risquez de vous lasser. Mais la parole de Dieu, même la 15e fois, même la 150e fois, si vous la lisez avec le cœur ouvert, vous ne vous en lasserez jamais. Ce n'est pas possible. Et si vous vous lassez de lire la parole de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Oui ou non ? Est-ce que c'est écrit que la parole de Dieu, elle est vivante ? Donc elle doit produire quelque chose. Si elle ne produit pas quelque chose, je ne dis pas tout le temps, il y a des fois on est mieux disposé que d'autres, d'accord. Mais c'est que les chrétiens sont endormis, anesthésiés, aveugle. Mais non, monsieur Gaud, un chrétien, il n'est pas aveugle. Ce sont les pécheurs qui sont aveugles. Eh bien, relisez le Nouveau Testament et vous verrez le nombre de fois où Jésus dit à des chrétiens qui sont aveugles. Ah, aux chrétiens de l'Odyssée, Jésus dit, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. C'est sérieux. Et moi, je suis peiné de voir que dans beaucoup d'églises, on laisse croire que tout va bien se terminer. Ça, c'est, écoutez-moi, je vais vous choquer peut-être. Ce message où tout va bien, que Dieu est bon et continuellement bon et qu'il ne peut pas juger les gens et que de toute façon tout le monde plus ou moins sera sauvé et que si vous avez accepté Jésus-Christ, vous ne pouvez pas perdre le salut. Écoutez-moi, ce message, il ne vient pas du ciel, il vient de l'enfer. Je vous choque, mais c'est bien. Ce message, il vient de l'enfer, il ne vient pas du ciel. Parce que sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Et les chrétiens, ils doivent d'ailleurs se sanctifier. D'ailleurs, à ce sujet, je regardais hier dans l'Apocalypse, vous savez le dernier verset, vous l'avez peut-être lu toujours sous les yeux, le dernier verset de la Bible. Je me suis dit, tiens, tu vas regarder dans une autre version pour voir. Parce qu'il y a des versions qui sont peut-être un peu plus cossues, un peu plus précises. Je regardais dans la version Darby, le dernier verset, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Dans la version Darby, si quelqu'un l'a, vous remarquerez que ce n'est pas ça qui est écrit. Il est écrit que la grâce de Dieu soit avec tous les saints. Ce n'est pas pareil. Quelqu'un a la Darby, là, est parmi nous ? Qui c'est qui a la Darby ? C'est bien ça ? Hein ? C'est ça. Que la grâce de Dieu soit avec tous les saints. C'est-à-dire, pas avec tous, dans le sein de la grâce. Bien sûr que Dieu veut que sa grâce soit sur tous. Mais en vérité, Dieu veut que sa grâce soit sur tous les saints. C'est-à-dire ceux qui se sanctifient. Ceux qui se sanctifient. Et ce message sérieux où nous voyons Dieu qui demande à tous les hommes de se préparer à le rencontrer, beaucoup de chrétiens s'imaginent que c'est pour les pécheurs invétérés, ceux qui résistent. Non, tous les chrétiens doivent se préparer. Jésus le dit, mais tenez-vous prêts. Vous avez remarqué que depuis la rentrée, j'insiste sur ce sujet. Depuis le mois de septembre. J'insiste sur ce sujet parce que je sais par le Saint-Esprit que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Et dans l'Église, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, il y aura une grande surprise. Parce que la moitié des chrétiens, c'est une prophétie, ne seront pas prêts. Alors ça ne veut pas dire que dans chaque Église, Dieu va plouffer les 50% de meilleurs. Ça veut dire que d'une manière générale, sur la terre, la moitié des chrétiens ne prennent pas au sérieux, ne prennent pas compte de ces prophéties. C'est ça que ça veut dire. Puisque je l'ai dit et redit, la parabole des 10 vierges, pour moi, n'est pas qu'une parabole, c'est une prophétie qui indique que beaucoup de chrétiens ne sont pas sérieux avec la parole de Dieu. Alors, on en parle, et il faut voir comment Dieu en parle. C'est pour ça que j'ai pris la prophétie de Joël, j'ai pris la même prophétie que prend l'apôtre Pierre. Et vous avez vu, un appelle la prophétie, ce sera un grand jour terrible. Et Pierre dit, ce sera un grand jour glorieux. Alors c'est facile à comprendre. Il sera terrible pour certains, pour les uns, et il sera glorieux pour les autres. Vous m'avez compris ? Il sera terrible pour les uns, et il sera glorieux pour les autres, parce qu'il y a celui qui sera pris, et bien qui connaîtra la gloire, et celui qui ne sera pas pris parce qu'il ne se sera pas préparé, qui vérifiera la prophétie du prophète, ça sera un grand jour terrible. Oui, ce sera un grand jour terrible. Vous vous rendez compte là, si Jésus revenait, que vous ne soyez pas prêts, tout le monde parte sauf vous. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Et il y en a qui ne sont pas prêts là. Il y en a parmi nous, je le sais. Mais vous vous rendez compte, le désarroi dans lequel vous vous trouveriez. Et vous diriez, mais pourquoi? Mais vous savez ce que vous diriez? Mais pourquoi il n'a pas insisté? Des fois, je me pose la question, si quelqu'un en enfer, pardonnez-moi, je sais que je fais mal les annonces, là je vais mal dire les choses, mais tant pis. Imaginez le mauvais riche, dans la parabole de Lazare et du mauvais riche. Le mauvais riche, il devrait venir prêcher à ma place ce matin. Vous croyez qu'il prêcherait comme moi? Je suis sûr qu'il serait déjà à genoux, en train de vous supplier de ne pas aller en enfer. Oui ou non? Je suis sûr que si Dieu donnait, il ne le fera pas, mais si Dieu donnait l'autorisation à un pécheur de venir prêcher, il prêcherait mieux que le meilleur des prédicateurs qui existent, croyez-moi. Parce qu'il vous supplierait, mais c'est sérieux. Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que c'est dit, mais ça a à voir avec la patience de Dieu. Jésus l'a dit, ils ne se douteront de rien. De rien. Et les gens ne voient pas combien, au travers de tout ce qui se passe, tout ce qui se passe est en train de nous montrer que la colère de Dieu, elle vient. Ce jour, mon frère, ma sœur, écoute-moi bien, ça sera un jour glorieux ou un jour terrible. Et tu choisis toi-même le camp dans lequel tu veux être. C'est important. Vous avez vu, on pourrait prendre tous les textes et être intelligent dans le sens de dire, tiens, pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi tel prophète? Pourquoi les anges? On dit ceci, vous remarquerez que la conclusion, c'est toujours que nous nous préparions à rencontrer le Seigneur et à arrêter de nous morfondre pour telle ou telle chose, alors qu'en vérité, c'est la main de Dieu qui est en train de diriger les choses pour nous conduire. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train de voir la main des hommes, et je ne comprends pas, et ça m'énerve, et mon mari, et ma femme, et les enfants, et mon patron. Ils voient mais mes frères et sœurs, si on ouvrait les yeux, on verrait que c'est la main de Dieu qui est en train de tout conduire pour nous amener à nous aider à nous préparer à le rencontrer. C'est sérieux. Et je dois vous poser la question, est-ce que vous êtes prêts pour l'enlèvement? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est sérieux? Un jour, on va passer devant le Seigneur. Devant ce grand livre, c'est écrit. C'est écrit. Que des livres seront ouverts. Et la Bible dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous savez quand est-ce que Jésus a dit ça? Il a dit ça quand les apôtres revenaient d'une mission où ils avaient eu beaucoup de résultats. Et ils étaient contents. Seigneur, Seigneur, tu sais pas, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils étaient super excités, super heureux, il y a de quoi. Et Jésus va les ramener à une espèce de réalité. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, parce que le résultat, vous savez, ça va et ça vient. Enfin, ça, c'est moi qui l'ajoute. Mais réjouissez-vous de votre salut. Parce qu'on ne peut pas toujours se réjouir du résultat. Dans la vie, on n'a pas toujours le résultat qu'on veut. C'est pas vrai? On n'a pas toujours le fruit qu'on voudrait. Il y a des années, les arbres, ils ne portent pas beaucoup de fruits. Ce qui est important, c'est qu'on les maintienne quand même. Mais il faut se réjouir de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et pour cela, il faut s'être préparé. Est-ce que je crois en Dieu? Mais monsieur Gault, quelle question. Parce qu'il y a des gens qui sont forts pour ça. Est-ce que vous croyez en Dieu dans le sens où vous croyez tout ce que Dieu a dit? Parce que croire en Dieu, c'est vague. Tout le monde, plus ou moins, croit en Dieu. Mais je ne vous demande pas si vous croyez en Dieu, je vous demande est-ce que vous croyez Dieu? Ce qu'il a dit, est-ce que vous l'avez accepté? Plusieurs ont dit dans leur prière, « Oh, merci Seigneur, parce que tu es mon sauveur. » Une autre a dit, « Nadège, merci Seigneur, parce que tu es mon Seigneur. » C'est pas ça que vous avez dit? C'est pas ça à peu près? Si? Est-ce que vous êtes heureux? Vous l'avez dit à haute voix? Peut-être, vous l'avez dit dans votre cœur? Vous n'avez pas tous prié, peut-être à haute voix. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit au Seigneur? Je t'ai accepté comme mon sauveur. Tu es devenu mon Seigneur. C'est ça, croire en Dieu dans la Bible. Est-ce que j'ai purifié mon cœur? Voilà la deuxième étape. Je veux purifier mon cœur. Je veux vivre dans la pureté. Je ne veux pas vivre dans l'hypocrisie. Quand David s'est fait, entre guillemets, coincé par le prophète Nathan, et au moment qu'il fallait, il n'a pas prié de la même manière. Il a dit, mais Seigneur, je veux, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça, c'est des prières qu'il faut faire. ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh, mais monsieur Gros, dans le Nouveau Testament, ça n'a rien à voir. Je l'entends, ça. Jésus a dit, il n'éteint pas le lumignon qui fume, donc on aura toujours le Saint-Esprit. Même fait, je ne sais pas si c'est avec ça qu'on va être prêt à rencontrer le Seigneur. Il faut vraiment tirer les choses par les cheveux pour croire qu'on va être prêt juste parce qu'il y a un lumignon qui fume. Je crois en Dieu, je me purifie et je l'attends. Comment je l'attends en fait? Puisqu'on a lu, il revient une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Comment je l'attends? Comment l'attendons-nous? Comment l'attendez-vous? Je l'ai dit tout à l'heure, sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Et je pense, mes frères et sœurs, qu'une peut-être des premières choses que nous devrions faire dans les jours à venir, Seigneur, rends ta parole vivante. La parole de Dieu, elle doit être vivante. Je la lis, elle me touche. Pas tout, je sais très bien, c'est pas possible. Mais quand même, il y a des versets qui devraient m'arrêter. Il y a des versets sur lesquels je devrais m'arrêter. Des versets qui devraient me dire, bon, cette semaine, je vais m'arrêter sur ce texte. Tiens donc, cette affaire de l'Église qui est en adéquation avec le Saint-Esprit, tiens, ça m'interpelle, ça. Il faut que moi aussi, je sois d'accord avec le Saint-Esprit. Est-ce que, tiens, dans mon foyer, est-ce que je suis d'accord? Est-ce que c'est important d'être d'accord avec sa femme? Vous avez vu comment ça se passe quand dans un couple, les gens ne sont pas d'accord? Comment c'est beau l'ambiance? Vous avez vu comment, quelle grâce il y a quand des gens sont d'accord? Et quand la parole de Dieu, elle est vivante, ça me met d'accord avec Dieu. Si je me mets d'accord avec Dieu, il ne va pas falloir attendre beaucoup de temps pour que je sois en accord avec l'autre. Parce que Dieu va me montrer ce qu'il me faut faire. Comment je l'attends? Comment je me purifie? Comment je crois? Mes frères et sœurs, vous allez me dire, mais c'est des choses basiques, monsieur Gauss, ça c'est pour les gens qui vont prendre le baptême que vous devriez prêcher ça. Écoutez-moi bien. Je vous dis que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de gens ne sont pas prêts. Ils n'attendent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne veulent pas de son retour. Ils ne disent pas « viens ». Il revient pour ceux qui l'attendent. Aimer, attendre le retour du Seigneur, c'est aimer son retour. Alors je voudrais quand même donner quelques précisions. Parce que ça ne nous interdit pas de faire des projets non plus. Est-ce qu'on peut faire des projets? Est-ce qu'on a le droit de faire des projets? Tiens, voilà, est-ce qu'un jeune couple peut envisager de construire une nouvelle maison? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est interdit? Non. Bon. C'est bien, au contraire. Est-ce qu'on peut même le faire comme il faut? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut organiser un voyage? Peut-être cet été, oh, j'aimerais aller dans tel pays avec mon épouse et mes enfants, on va économiser. Est-ce qu'on peut organiser un voyage? Bien sûr. Est-ce qu'on peut préparer sa retraite? Peut-être que vous êtes à 6 mois de la retraite. Écoutez, oh, il faut que je prépare mes points. Est-ce que Dieu nous interdit de préparer ces choses? Non. Peut-être que vous allez changer votre voiture. Vous calculez, tiens, je peux acheter tel modèle. Hein, celui-là, je ne peux pas. Pourquoi je vous dis ça, mes frères? C'est sérieux ce que je vous dis. C'est pas une blague. Dieu ne nous empêche pas de faire des projets. Parce que lorsque, justement, on ne fait plus des projets, je pense qu'on devient un peu mystique. Le retour du Seigneur, ça doit être une priorité, ça doit être la priorité. Mais que Dieu nous donne la sagesse de ne pas devenir des gens idiots, stupides, qui ont un témoignage déplorable. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont donné un témoignage minable. C'est pas vrai? Non, on ne peut plus rien faire. Moi, je me souviens quand on a acheté la maison, je me rappelle à Groyer, c'était un miracle cette maison. Comment on a pu la voir? Il y a des chrétiens qui sont venus trouver Monsieur Gou, un chrétien spirituel. Il n'achète pas une maison. Un chrétien spirituel, il est locataire. Non mais, moi, ça nous a fait rire. Ça nous a fait rire. Mais il y a des gens comme, vous voyez, le témoignage, c'est ridicule. Vous n'êtes pas spirituel parce que vous êtes locataire ou propriétaire, ça n'a rien à voir. Vous croyez que dans le ciel, il n'y aura que des locataires? Mais c'est ridicule. Ça vous fait rire. Mais mes frères et sœurs, quand on ne met pas les priorités d'une manière intelligente, on en arrive à des bêtises pareilles. Un chrétien, il n'est pas mystique. Un chrétien, il a le droit de faire des projets. Un chrétien, il a le droit de faire un voyage. Un chrétien, il a le droit de construire une maison. Mes frères et sœurs, ne disons pas des âneries. Mais en premier, un chrétien, il dit au Seigneur, viens. Un jeune chrétien, parce que je sais que les jeunes, ça va leur faire plaisir ce que je leur dis. Ils peuvent envisager de se marier. Seigneur, je veux que tu reviennes, mais j'aimerais quand même qu'Albertine, on puisse se marier avant. Il n'y a pas d'Albertine dans l'église? Il y a des chrétiens qui me l'ont dit dernier, oh monsieur, je veux que Jésus revienne, mais j'aimerais me marier. Mais ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Moi j'ai tellement entendu d'ânerie que je me permets de dénoncer ces choses. J'espère que si vous êtes jeune, que vous avez Alizé, tu veux te marier un jour? Ah, le papa il veut pas. Pas encore. Bon, je vais prendre un autre exemple. Timothée, oui, bon. Mais voyez, c'est la vie, elle doit être faite de projets. Un chrétien, même s'il aspire au retour du Seigneur, il a des projets. Frères et sœurs, ne donnons pas un mauvais témoignage. Ne donnons pas un mauvais témoignage. Un chrétien, il aime le Seigneur avant tout. Est-ce que vous aimez Dieu avant tout? Préparez votre maison, préparez votre mariage, Timothée, et invitez-nous, bien entendu, pour la... Bien sûr, ça serait grave de... Oui, ça sous-entend également cette affaire. Hein. Mais mes frères et sœurs, avant tout, préparez votre voyage. Préparez le retour du Seigneur. Préparez l'avènement de l'Église. C'est quelque chose d'important. Comme l'apôtre Jacques a dit, nous devrions dire, si Dieu le veut. Voilà. C'est ça qui plaît au Seigneur. Ça dénote un état d'esprit. Eh bien, si Dieu le veut, eh bien, on fera ça. Si Dieu le veut, eh bien on achètera une maison. Si Dieu le veut, on entreprendra telle affaire. Mais avant, mes frères et sœurs, que Dieu soit en premier, mes frères et sœurs. Vous savez, s'il y a beaucoup de drames, beaucoup d'angoisse, quand je vois tous ces couples qui divorcent partout, toutes les semaines, on m'a dit, monsieur Gaud, dans telle église, ce couple qui servait Dieu, ils sont en train de divorcer, ils sont en train de se séparer. Et croyez-moi qu'en disant ça, je ne cherche pas à faire de la peine à ceux qui se trouvent dans cette situation. Et je suis là pour vous aider, croyez-moi si vous êtes dans ce cas de figure. Mais je suis quand même certain que si tous les chrétiens mettaient en priorité les choses spirituelles, si tous les chrétiens commençaient à dire, c'est vrai, on va faire des projets, ma chérie, on fera tel projet, mais on va s'unir dans la prière, on va demander à Dieu si Dieu le veut. C'est comme ça, c'est pas grand chose, mais les priorités, ça sert à ça. S'il y a beaucoup de drames, de désarroi, et il y aura beaucoup de drames, si l'apôtre, le prophète, dit ça sera un jour grand et terrible, parce que ça sera un jour terrible. Et je peux vous dire que si vous n'êtes pas prêt, ça sera un jour terrible. Vous ne rirez pas et même vous m'en voudrez. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous m'en voudrez. Je sais que c'est vrai. De ne pas avoir insisté. Vous le croyez ce que je vous dis? Est-ce que vous le croyez? J'attends que vous répondiez. Est-ce que vous le croyez? Mais bien sûr. Je peux vous dire que là, si vous n'êtes pas enlevé, vous direz, mais pourquoi M. Gaud, il n'a pas insisté davantage? Pourquoi il ne l'a pas expliqué plus clairement? Pourquoi? Parce que les gens sont aveuglés. Et moi, je ne veux pas l'être. Parce que moi aussi, il me faut me préparer. Croyez-moi. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont prêts parce qu'ils sont d'accord avec la prédication. Mais je suis d'accord avec ce que le pasteur dit. Je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas au bout de la rue que déjà vous l'avez oublié. Vous n'êtes pas arrivé au lundi matin que déjà vous êtes préoccupé par d'autres choses. L'épouse, elle dit, viens. L'esprit et l'épouse disent, viens. C'est un message solennel. Vous lirez dans un dictionnaire. C'est bien le dictionnaire. Vous regardez qu'est-ce que ça veut dire, solennel. Une des définitions du mot solennel, c'est grave. Quand on dit qu'un message est solennel, c'est qu'il y a de la gravité. C'est qu'on doit faire attention. C'est que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que l'on doit prendre au sérieux. Vous avez entendu la prophétie ce matin? De la légèreté. Tu n'écoutes pas parce que tu es léger. Tu n'obéis pas parce que tu es léger. Et moi, dans mes notes, il y a un moment sur la légèreté. Il y a des gens qui sont légers. Vous vous rappelez Belshazzar? Qui s'amusait. Monsieur, il pensait qu'à faire la fête. C'est vrai qu'il avait les moyens. Il faisait la fête. Et il a ajouté. Parce qu'à force d'ajouter au péché, ça finit mal. Et il s'est permis de faire venir les vases qu'on avait volés dans le temple. Vous vous rappelez? Et il a fait boire les invités. Monsieur, s'autoriser à jouer avec les choses de Dieu. Vous savez, on peut jouer, mais pas avec les choses de Dieu. Et au moment où il a fait venir les vases d'or et d'argent, monsieur pensait que, eh bien, tout d'un coup, il y a une main qui est apparue sur le mur de la salle à manger et qui a écrit quelques mots, léger, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. La main de Dieu, quand elle écrit, ce n'est pas que pour faire des promesses parfois. C'est pour dire ce qui ne va pas. Et cet homme, il s'est entendu dire léger. Mais je peux vous dire que si Dieu devait écrire aujourd'hui sur les murs de notre salle à manger, il y a beaucoup de maisons où il y aurait écrit les mêmes paroles. On est sérieux avec Dieu. On est sérieux avec la parole. Et on doit demander à Dieu, comme la prophétie le rappelait. Mais on peut demander à Dieu qu'il secoue notre cœur. Est-ce qu'on peut le demander ? Qu'est-ce que vous lui demandez au Seigneur ? Est-ce que vous pouvez lui dire, Seigneur, je t'en prie, secoue mon cœur. Change mon cœur. Des fois, on le chante. On l'a chanté dimanche dernier pour tout changer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis dimanche dernier ? Je l'espère. Seigneur, secoue les églises. Est-ce qu'on peut prier que le Saint-Esprit secoue les églises de Toulouse ? Vous ne croyez pas qu'elles ont besoin d'être secouées, nos églises à Toulouse ? Nos églises dans ce pays où tout le monde pense que tout va bien et qu'on va s'en sortir ? Croyez-moi, je le répète, il y aura beaucoup de désarroi. Alors je suis tiède. Mais je ne vais pas me culpabiliser davantage. Je suis tiède, Seigneur, secoue-moi afin que je sorte de ma tiédeur. Est-ce qu'on peut la faire, cette prière ? Est-ce que Dieu peut l'exaucer, cette prière ? Eh bien oui, Seigneur, je suis endormi. Je suis complètement endormi. Je suis capable de me lever, de faire une heure de footing, mais dès que je me lever pour prier 5 minutes, j'arrive pas. Je suis épuisé, j'arrive pas. Eh bien, c'est que vous dormez spirituellement. Eh bien, faites-en une affaire sérieuse. Dites au Seigneur, réveille-moi. Je veux régler cette affaire. Croyez-moi, cette prière-là, Dieu l'exaucera. Si vous lui demandez, Seigneur, je veux gagner à la loterie, parce que cette prière-là, je vais vous le dire, il ne l'exaucera pas. Écoutez-moi, il ne l'exaucera pas. Mais si vous lui dites, Seigneur, réveille-moi de ma tiédeur, réveille-moi de mon sommeil, réveille-moi de ma anesthésie, le Seigneur le fera. Tiens donc, une question. Comment pourrions-nous analyser, écoutez bien cette question, elle m'est venue sur le cœur hier matin. Comment pourrions-nous analyser nos dernières heures de prière ? Dernières heures dans le sens de, si on met les 10 minutes et les quarts d'heure tout ajouté. Tiens donc, la dernière semaine de prière, comment je l'analyse ? Ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise, mais quand même ça nous permet de savoir un peu où on en est. Comment j'ai prié dernièrement ? Pour qui j'ai prié ? J'ai prié que pour moi. Pour moi et moi. Il y a déjà des gens qui prient que pour eux. Vous savez que c'est vrai ? Il y a déjà des gens qui prient pour eux. Pour qui t'as prié cette semaine ? Comment t'as prié ? Comment j'ai prié ? Je vous disais tout à l'heure dans le chant, à juste titre, que lorsqu'on prie, lorsqu'on chante, on nous met de la ferveur. Est-ce que c'est écrit ? Soyez fervent d'esprit. Est-ce que Dieu nous demande de mettre de la ferveur dans ce qu'on fait ? Oui. Tiens, avec quelle ferveur j'ai prié pour les membres de ma famille qui sont perdus ? Ou est-ce que, comme je l'ai encore entendu hier, « Ah ben moi je ne prie plus pour ma famille, j'en ai marre, ça fait des années, j'en ai assez, j'en peux plus, ils font que s'endurcir. » Eh bien, vous croyez que c'est comme ça que Dieu nous demande de faire ? Il y a des gens qui ne prient plus, ils sont fatigués. Comment je prie ? Quand est-ce ? Écoutez bien mes questions, parce que ce n'est pas des questions pour gêner. C'est des questions vraiment pour nous faire réfléchir. Quand est-ce que c'est la dernière fois où je suis venu dans la maison du Seigneur supplier Dieu pour le salut des âmes ? Quelqu'un va me dire, ah mais moi, monsieur Gaud, je ne peux pas venir le mardi soir. D'accord, ça ne me gêne pas. Mais alors quand est-ce que c'est la dernière fois, ou seul dans ma chambre, parce que ça quand même, tout le monde peut le faire, j'ai prié avec ferveur pour le salut de mon mari, déjà, mais de ses voisins. Quand est-ce que c'est la dernière fois où j'ai prié avec ferveur pour les rétrogrades de Toulouse ? C'est quand même des questions qu'on a le droit de se poser. Ça nous permet quand même, sans nous culpabiliser, mais quand même de dire, mais c'est vrai. Si Dieu me demande d'avoir de la ferveur, il faut que j'en aie. C'est écrit ça ou c'est pas écrit ? Soyez, où c'est écrit ? Nicolas, tu devrais savoir. C'est bien, c'est déjà bien. Alors, c'est écrit dans Romains. Mais lisons-le, mes frères et sœurs. Parce que c'est pas anodin. C'est sérieux, ces choses. La parole de Dieu, elle est vivante. Peut-être que c'est à cause de ça que je suis en difficulté, que j'ai perdu cette ferveur, ce zèle. Vous voyez dans Romains, au chapitre 12. C'est quand même des choses... Elles sont écrites. Ça ne peut pas être de la formalité, la prière. comme ce culte, ça ne peut pas être de la formalité. Romains chapitre 12, verset 11. C'est un des moyens pour retrouver cette communion avec Dieu. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez dire alléluia. Mais c'est ce que je vais faire. Oh, c'est pas une question, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de décibels. Ne commencez pas à crier pour faire croire que vous êtes zélé. Le zèle, ça n'a rien à voir avec les décibels. Quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, vous savez, à ceux qui crient jour et nuit, c'est pas une question de décibels. Ça veut dire que la foi est plus forte que le doute. C'est ça le cri. Ma foi est plus forte que ce l'enfer qui m'attire. Soyez fervent d'esprit, regarde, du zèle, regardez le dernier conseil à une église, dans l'Apocalypse chapitre 3. Un des derniers conseils qui est adressé à une église qui est endormie, c'est exactement le même topo, exactement. Apocalypse chapitre 3, verset 19, ce sont les derniers conseils qui sont adressés à une église. Regardez, moi je reprends Apocalypse 3, 19, moi, c'est Jésus qui parle. Je reprends et je châtie qui ? Tous ceux que j'aime. Si vous vous sentez repris, eh bien vous êtes heureux. Parce que si vous ne vous sentez pas repris et que vous en ayez besoin, vous êtes très, très loin de Dieu. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle, et repens-toi. Ce qui prouve que parfois la repentance n'est pas suffisante. Alors c'est grave, mais je le pense. Il ne dit pas « repens-toi ». Aux autres églises, « repens-toi, repens-toi, repens-toi ». Dans cette église qui représente la dernière, il dit « en même temps que tu conjugues le zèle, ajoute la repentance, ajoute du zèle ». Mais vous pouvez demander, nous pouvons, je peux demander. « Seigneur, donne-moi du zèle. Seigneur, je veux être fervent d'esprit. Écoutez-moi, si Dieu vous demande de faire cette chose, faites-le, faites-le. » Peut-être que vous habitez un endroit où il y a plein d'étrangers. Est-ce que Dieu peut nous avoir placés dans un endroit où il y a plein d'étrangers ? Il y a des gens qui sont énervés. Je ne comprends pas. Il y a trop d'étrangers autour de ma maison. Mais si c'est Dieu qui vous y a placé ? Non mais, écoutez mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont spirituellement démontés parce qu'ils voient certaines choses qui les contrarient. Mais c'est Dieu qui vous a placés là où vous habitez. Seigneur, je veux te prier pour les étrangers. Vous croyez, vous savez, hier j'ai reçu un mail d'un étranger qui s'est converti ici. Si vous saviez le mail, il m'avait demandé de vous le lire. J'en reçois tous les jours des mails de gens qui se sont convertis à Saint-Agne, qui sont repartis. Vous vous rappellerez, vous vous rappelez ce gars quand il a pris le baptême, qui disait qu'il avait peur de l'avion. Vous ne vous rappelez pas ? Il m'a envoyé un mail pour me dire combien il était attaché à Dieu. Combien il était heureux. Il avait fait des études, c'était pour rien. C'était pour mon salut que je suis venu à Toulouse. C'est un merveilleux témoignage. Mais mes frères et sœurs, ça fait du bien de voir qu'à 4 ans après, un jeune est toujours attaché à Dieu, fervent d'esprit. Quand Dieu demande d'être fervent d'esprit, soyons-le. Ne commençons pas à sélectionner. Ah non, moi, c'est ma personnalité, mais la ferveur, je le répète, ce n'est pas une question de décibels, c'est une question, un état d'âme. Même si on ne vous entend jamais en haute voix dans l'église, ne vous méprenez pas. C'est une question d'état d'âme. Je veux que tu sauves des perdus. Et Dieu le voit. Vous savez quand Anne dit dans son cantique, car Dieu en lui sont pesées toutes les actions. Dieu voit, ce matin vous n'avez pas élevé la voix. On pourrait vous dire, mais monsieur Untel, vous n'avez pas élevé la voix. Quand même. Mais peut-être que vous avez crié plus fort que le pasteur, que tout le monde a entendu. Est-ce que c'est possible ça ? Eh bien sûr. Quand Jésus, quand il nous demande de prier, il nous dit, mais surtout, ne priez pas comme les hypocrites. Ne priez pas comme les pharisiens, les publicains, qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Mes frères et sœurs, ne vivons pas dans l'imaginaire, ne vivons pas dans le flou, dans cette espèce de duplicité. Vivons dans la vérité. Si Dieu me dit, sois fervent d'esprit, eh bien, je vais m'y attaquer. C'était peut-être le verset que vous aviez besoin d'entendre ce matin. Un chrétien, il aime être corrigé. Un chrétien, il aime la présence de Dieu. Vous aimez la présence de Dieu ? Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous les saints. Alléluia. C'est sa volonté. Dieu a donné sa vie sur la croix. Il a tout accompli. pour que le bonheur c'est pas le bonheur comme on l'entend le monde, pour que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours. La grâce, elle peut vous accompagner. De toute façon, le bonheur sans la grâce, ça n'existe pas. Le bonheur, c'est comme la foi sans la grâce, ça n'existe pas. Mes frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous les saints. Et si nous nous sanctifions, nous pourrons dire jusqu'à la fin, viens, oui, je veux me marier. Oui, je veux une épouse. Oui, je veux un mari. Oui, je veux des enfants. Oui, oh, tiens, on l'appellera Gérard. Non, c'est pas joli, Gérard ? Nelly, c'est pas joli. Ah. Comme dans la Bible, Tertius, vous avez vu ? Le gars, il ne savait pas comment appeler ses fils. Tertius, Quartus, Quintus, vous avez vu ? C'est facile. Mes frères et sœurs, vous avez droit de faire des projets. Vous avez droit de partir en voyage. Vous avez droit de construire votre maison. Faites ces choses. Faites-les. Mais que Jésus soit en premier. Et que la présence de Dieu soit en premier. Oui, je ne peux pas venir le mardi. Franchement, moi, ça ne me gêne pas. Mais que cette semaine... Si la question devait vous être posée par le Saint-Esprit la semaine prochaine, vous puissiez répondre, oh, monsieur Go, ou Seigneur surtout, tu vois, cette semaine, j'ai prié avec ferveur. J'ai pas beaucoup de temps, Seigneur. Tu sais, je suis pris avec mes six gosses, avec là, mon travail. J'ai que 20 minutes par jour. Mais ces 20 minutes, elles vont être bénies. C'est ta présence que je veux, Seigneur. C'est ta présence. Alléluia. Vous êtes d'accord, frères et sœurs ? Vous pouvez dire à Jésus ce matin, oui, viens. Timothée, vous pouvez le dire ? Les jeunes célibataires, vous pouvez dire, viens. Les plus vieux, c'est facile, peut-être. Mais je crois que ce qui est important, c'est que Jésus voit qu'il est en premier. Moi, j'aimerais qu'on se lève et qu'on termine en remerciant Dieu. Vous êtes d'accord pour que le Seigneur nous secoue ? Vous êtes d'accord ou vous voulez que des messages chatoyants, lénifiant. Vous voulez des messages comme ça ? Il faudra faire comme pour les annonces alors. Il faudra demander à quelqu'un d'autre. Mais là, je pense que vous pouvez me garder pour la prédication, si vous voulez. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu ? Vous voulez bien, mes frères et sœurs ? On va lui demander son secours. Vraiment. Notre Père, nous le croyons que tu châties et que tu reprends tous ceux qui t'aiment. Tu sais, Seigneur, quel est l'état de nos cœurs. Et nous voulons, oui, te prier pour que nos cœurs, par ton esprit, soient secoués. Que nos âmes soient secouées. Que nous sortions, si nécessaire, de cette tiédeur, de cette anesthésie spirituelle. Nous voulons, oui, nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et nous voulons... pour tous les chrétiens de cette Église, que ce jour soit grand et glorieux. Et nous nous y appliquerons, Seigneur, parce que je sais que tu nous aideras à être fervents d'esprit. Tu vois, cet après-midi, la réunion d'évangélisation, les prochaines réunions de semaine, nos cultes personnels, Seigneur. Tu vois, ces cultes que nous avons seuls dans notre maison, aide-nous à les vivre avec cette authenticité, avec cette grâce, tous les jours. Puisque tu as promis que tu serais tous les jours avec nous, que ta grâce nous accompagnerait tous les jours. Seigneur, nous le croyons, tu ne nous as pas menti. Alors, que ton nom soit béni, Seigneur, et que cette semaine soit une semaine d'expérience, de victoire, oui, de grande victoire dans le cœur de chacun de tes enfants. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Que sa paix soit sur vous, mes frères et sœurs.